Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir l'émission enregistrée avec le philosophe Clément Rosset le 27 décembre 2016 sur le thème de l'ivresse, en hommage à Clément Rosset qui nous a quittés il y a quelques semaines. Vous vous remettez peut-être des festivités enivrées de Noël, vous vous préparez à affronter celle de la Saint-Sylvestre. Peut-être même n'avez-vous pas encore dessoulé, entendez-le au sens propre ou au sens figuré. Si c'est au sens propre, eh bien c'est tant mieux, car vous êtes exactement dans le même état que celui du consul, le personnage principal du chef-d'œuvre de Malcolm Lowry, au-dessous du volcan, qui va faire le premier pas titubant sur le chemin de ce jour, en compagnie du philosophe Clément Rosset, dont l'humeur sera peut-être la même que celle du consul à l'issue de cette émission. Bonjour Clément Rosset.
Bonjour.
Tout ce qui a été dit au sujet de la boisson est absurde.
Nouveau chemin vous accompagne tous les jours de 10h à 10h53 en direct et toutes les nuits en téléchargement. Chaque semaine, on vous invite à déambuler autour d'un thème à la croisée des disciplines, philosophie, littérature, cinéma, musique. Et chaque jour, nous donnons la parole aux amoureux du savoir, aux gourmands de la pensée, aux férus de transmission, la crème de la crème à votre service et au creux de votre oreille.
Rien n'est changé. Et malgré la miséricorde de Dieu, je suis toujours seul. Bien que ma souffrance semble n'avoir aucun sens, je suis toujours dans l'angoisse. Il n'y a pas d'explication à ma vie. Délivrez-moi de cette effrayante tyrannie de moi.
Le consul marche, sans but précis, sans direction déterminée, d'un pas à la fois incertain et assuré. Ivrogne incurable, il a déjà bu vaillamment, malgré l'heure très matinale, pour fêter le retour de son ex-femme, Yvonne, qu'il a été attendre au bar de Kawanaiwak, occasion de prendre quelques verres de whisky supplémentaires. Ils rejoindront à pied la villa du consul. Allons-y gaiement et tâchons de faire bonne impression. Le consul y réussit plutôt, parvient du moins aux côtés d'Yvonne à mettre assez régulièrement un pied devant l'autre, tout en parlant avec un rien de solennité, tandis que d'une certaine, de toute façon, ils allaient leur chemin.
Ceci est ce que Hugues a trouvé contre l'alcoolisme, la strychnine. Il soudoie concepta pour quel mot poisonne ? Veneno.
Signora, c'est pas vrai.
Ça doit être atroce.
Ça l'est. Attends, as-tu envie d'un whisky?
Je n'ai pas encore pris de petit déjeuner. Jeffrey. Jeffrey, prends-le.
Quoi?
Pour l'amour du ciel, bois-le, je ne m'attends pas à des miracles.
Non, je m'en tiens à mon ancien médicament.
Tu as vraiment démissionné?
Absolument. Plus de diplomatie pour moi.
Dans ce cas, rien ne te retient réellement ici, désormais.
La magie. Celui sur lequel la poussière du Mexique s'est posée ne trouvera la paix sur aucune autre terre.
Mais rien ne te retient réellement.
Rien n'est plus réel que la magie.
Très bien, Jeffrey. Nous en reparlerons quand tu seras reposé.
Quand je serai dessoulé, tu veux dire? Tu dois savoir depuis le temps que je ne suis pas ivre, même si je bois comme un trou, et que je ne suis saoul selon l'image conventionnelle de l'ivrogne titubant que lorsque je n'ai rien bu. Sûrement, tu te rends compte de l'équilibre serré que je dois maintenir entre les frissons de l'état de manque et l'abîme du trompe-l'œil.
Le personnage du consul, Clément Rousset, ouvre votre ouvrage, intitulé « Le réel traité de l'idiotie ». Vous vous rappelez l'histoire du livre de Malcolm Lowry, « Au-dessous du volcan », cet ivrogne, le consul, qui est tellement ivre qu'il ne l'est plus, c'est-à-dire qu'il est à la fois complètement ivre et en même temps tout à fait lucide de ce qui lui arrive. Et vous prenez cet exemple du consul pour montrer que finalement, celui qui voit la vie en double, celui qui voit double d'avoir trop bu, est en fait plus lucide et plus proche du réel que celui qui n'a pas bu.
Voir double, bah oui, c'est un phénomène somatique. On n'accommode pas de la même façon. Les deux images qui sont généralement, quand tout va bien, qui n'en font qu'une, se séparent et on voit deux choses et qu'on n'en voit pas davantage. Mais mon intention était plutôt de dire que la vision du consul est une perception aiguë qui s'attache beaucoup plus à un contact direct, un peu magique, si je puis dire, avec le réel. Je vois enfin le réel sans double, parce que dans beaucoup d'autres ouvrages, j'ai tellement insisté sur le fait que tout illusionné, toute personne refusant plus ou moins la perception du réel et sentir avec un usage du double, justement. Or, ce n'est pas du tout le cas du consul, qui est très lucide. Il n'y a qu'à voir ses conversations, quand il y en a, avec son frère, qui lui voit tout à fait double. En revanche, il va partir pour l'Espagne. Mais ce n'est pas du tout le cas du consul, qui lui est dans un état un peu d'hébétude, si on veut, mais une hébétude qui est fixée de manière tout à fait extraordinaire, enfin, qui n'arrive que dans les cas d'une certaine ivresse, à être face à l'unicité de la réalité, enfin perçu comme justement unique. Il ne s'en rend peut-être pas compte, lui, mais nous lecteurs, qui lisons son histoire, voyons très bien qu'il voit la réalité de manière un peu hallucinatoire. Il peut pas se séparer de la tautologie, n'est-ce pas, c'est un caillou, c'est un caillou, et il n'y a pas autre chose, n'est-ce pas.
Mais parce que l'air de rien, ce que vous êtes en train de dire, c'est le fond de l'affaire, si j'ose dire, de votre travail, où, à travers les nombreux ouvrages que vous avez publiés, vous essayez de montrer que la chose au monde la plus difficile à atteindre et à penser, c'est le réel, et que bien souvent, l'homme a besoin des doubles, du reflet, de l'imagination pour saisir ce réel. Or, dites-vous, l'ivrogne est celui qui voit les choses telles qu'elles sont, dans leur singularité.
Oui, enfin, il y a ivrogne et ivrogne. Hein. Des ivrognes type consul,
oui. Malcolm Lowry.
Malcolm Lowry est un ivrogne, je le dis dans le livre, un ivrogne extraordinaire, hors concours, n'est-ce pas ?
Vous dites, le consul de Malcolm Lowry n'est pas un ivrogne ordinaire, c'est un ivrogne extraordinaire. Oui. Un voyant qui se sait plongé dans un état d'ébriété exceptionnel. Il n'a rien d'un homme qui perd de temps à autre son chemin pour le retrouver par la suite, pour le reprendre à nouveau. D'abord parce que son ivresse est permanente et qu'ainsi l'état de voyance qui en résulte ne se trouve sujet à aucune éclipse. Aucun intervalle de lucidité ne vient troubler son hébétude.
Mais voilà, il y a le mot voyance qui est très important. J'oubliais de vous dire, le consul est un voyant. Et pas un voyant au sens de la voyance à 10 euros la séance, mais il a le privilège de voir l'unique. C'est pour ça qu'il est très souvent tautologique et répétitif, même dans des formes tout à fait vulgaires. Mais puisque je vous dis que c'est Eric, je vous dis que c'est Eric. Eric, c'est Eric.
Et ça vous mimez l'ivrogne, là.
Comment ?
Vous mimez l'ivrogne.
Je ne raconte pas ma vie privée. Non, je mime l'ivrogne. Un certain type d'ivrogne.
Vous prenez comme exemple, quand vous continuez dans votre livre à analyser l'exemple du consul, vous écrivez ceci. Regardez là, il y a une fleur. S'extasie l'ivrogne, hébété par la présence sous ses yeux d'une chose singulière et unique qu'il montre de l'index tout en prenant l'entourage à témoin. Et bientôt à partie si celui-ci se rebiffe. Mais regardez là, une fleur. Une chose toute simple. c'est-à-dire saisie comme singularité stupéfiante, comme oui. émergence insolite dans le champ de l'existence. Et vous concluez en quoi l'ivrognerie peut être invoquée comme une des voies d'accès possible à l'expérience ontologique, au sentiment de l'être, car l'ivrogne voit qu'il y a la rose et qu'elle est sans pourquoi.
Oui, bah ça, on le trouve aussi.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'être. L'ivrogne arrive à voir le réel dans sa simplicité, c'est-à-dire dans son absurdité, et il s'en accommode très bien.
C'est donc un étonnement, une illumination, une sorte de presque une hallucination que il y a une fleur. C'est un petit peu la fleur et la rose, sans pourquoi. C'est un des éléments de la grande valeur de la vision ivrogne au sens. Positif, enfin, au sens où la vision apporte quelque chose et n'apporte pas des chimères, comme les deux vers ou comme tout ce qui relève du double. Puisqu'on est sur Malcolm Lowry, je vais achever peut-être, parce qu'on retombera peut-être pas sur lui tout à l'heure, je dis que le consul marche d'une manière absolument aléatoire et tout à fait déterminée. Je ne sais plus l'expression de Lowry. C'est un chemin...
De quelque façon, c'est le « somehow, anyhow ».
C'est le refrain que je reprends dans cette analyse. Et pour dire que la marque, la signature du réel, est forcément unique et concrètement isolable. Alors que le monde de l'illusion est plutôt au fait de... Il marchait... au hasard, sans chemin, et pas du tout, de toute façon, un chemin. Ce ne sera pas la formule des personnes qui ne font pas enfin absolument confiance à la réalité. Il peut marcher comme de mille façons qu'on n'imaginerait jamais. Non, vous marchez, même si vous êtes complètement rond, eh bien, votre démarche, n'a pas de réplique. Elle est sans réplique.
Elle est unique.
Et j'ai beaucoup aimé cette expression de dire, quoi qu'il en soit, ça sera d'une certaine façon. Cette affirmation du hasard total, en même temps que la reconnaissance que le hasard, au fond, n'est autre que le tissu du réel, puisque quel que soit le chemin que nous empruntons, nous sommes dans un chemin hasardeux, qui est à la fois indéterminable, mais parfaitement déterminé.
Oui, vous dites, on peut bien se déplacer sans intention déterminée ou tituber d'un pas d'ivrogne, mais l'itinéraire qu'on aura suivi en fin de compte n'en aura pas moins tous les caractères de la détermination. Il est impossible, en toute rigueur, de marcher au hasard.
Voilà, oui.
Comme il est, de manière générale, impossible de faire quelque chose qui ne possède pas la détermination de ce quelque chose. On peut certes faire tout ce qu'on veut, on ne pourra jamais pour autant faire n'importe quoi.
Voilà, ben, je le dis presque aussi bien que le consul.
Que, non, c'est vous-même d'ailleurs, c'est vous qui écrivez sur le consul, ce que je viens de dire.
C'est le consul qui parle là ?
Non, c'est vous.
Ah oui.
C'est votre texte.
Ben, c'est un modeste commentaire à ce qui est exprimé par le consul et par Malcolm Lowry. D'ailleurs, entre parenthèses, ce consul, c'est un double, enfin double, pas un double, mais c'est un autre. Un clone un peu de Malcolm Lowry. C'est un cas très intéressant, enfin, tout à fait singulier, justement lui-même, Malcolm Lowry, parce que il n'y a rien de plus difficile que de, quand on est absolument en permanence pété, que de faire un livre de 600 pages. C'est impossible. Il n'y a pas d'exemple. Et on pourrait dire dans d'autres domaines que, je sais pas, quelqu'un qui subit une addiction vis-à-vis de quelque chose, il ne peut pas parler de son addiction. Il est trop dans son addiction, il n'a pas le temps.
Et vous pensez que Malcolm Lowry boit pour s'aider à écrire, ou qu'il l'écrit, ou qu'il a cette lucidité parce qu'il boit ?
Eh bien, la question est excellente, et c'est un grand mystère. Et c'est pour ça que je dis que c'est un miracle qu'on ait son livre, parce que il a écrit 19 fois son livre, le manuscrit. Il en a écrit 9 ou 10 avant d'écrire le dernier, parce qu'il a gardé. L'un a perdu dans un naufrage, dans un incendie, l'autre il l'a perdu à jamais. Il a réécrit 10 fois. Ça rend encore plus miraculeux cette faveur de Lowry et du sort que de nous avoir transmis un livre qu'on peut dire vraiment unique en son genre. des livres d'ivrogne qui illuminent l'ivrognerie, écrit par un ivrogne incurable. C'est, il y a pas, il y en a pas deux, hein. C'est vraiment un, quelque chose d'extraordinaire. Je vous rends la parole. Excusez-moi.
On va convier un autre ivrogne à notre table, Clément Rossi.
J'espère que c'est pas moi.
Alors, non, peut-être après. On verra, l'émission est loin d'être finie. Je vous ai promis une surprise. Ouais. J'espère que vous aimez les surprises.
Oui, oui, oui.
Elle viendra après coup. Elle viendra. D'abord, je vous propose d'accueillir à notre table. Alors, un ivrogne, bah, justement, vous nous direz ce que c'est qu'un ivrogne. Vous aviez commencé à distinguer deux niveaux d'ivrognerie. Alors, vous nous direz à quelle catégorie appartient cet ivrogne et de quelle ivresse il s'agit. Écoutez, le capitaine Haddock.
Tonnerre de tonnerre de tonnerre de Brest. J'aime pas ça. Ça tente, ça roule, ça pique du nez ou de la queue. Un peu comme un rafiot, mais... Et tout ça sur de l'air. Quasiment sur du vide, quoi. Oh non. Oh, j'aime encore mieux la flotte. Les deux asticots n'ont pas l'air tranquilles non plus. Oh, si seulement je trouvais quelque chose pour me remonter le moral, moi. Voyons là-dedans. Oh, une bouteille. Hurrah ! Du whisky. Oh, s'il faut mourir, que ce soit après avoir vidé une dernière bouteille. Allez, à la vôtre, tout le monde. Tonnerre, ces crapules-là ont du bon whisky. Il est bon, votre whisky, compliment. Encore un petit coup pour affronter l'adversité. Ah, et puis après tout... Oh, ça recommence. Et hop, on remonte. Ça me rappelle les montagnes russes de mon enfant. Et heureusement que j'ai le pied marin. À la tienne, Haddock. Ah, maintenant je suis en forme. Je vais aller un peu relayer le petit. D'abord la bouteille en lieu sûr. Allez, dodo ma mignonne. À tout à l'heure. Et maintenant, on commence. Nous irons à Valpare et vous, de Dis donc, Moussaillon, je dois être amusant de tirer sur ce bout de bois, de le repousser.
Bien, pas en ce moment, croyez-moi.
Comment vous faites, hein? Vous tirez, hein? Alors allons-y.
Mais non!
Les catastrophes commencent peut-être lorsque nous ne sommes ivres que par intermittence, Clément Rosset. Vous disiez que le consul est ivre perpétuellement, et c'est là sa grande lucidité. Le capitaine Haddock, lui, ne boit que de temps en temps, ce qui produit presque à chaque fois une mini-catastrophe.
Alors, je suis pas tout à fait de votre avis. Première remarque sur ce sujet, c'est que le capitaine Haddock est ou bien parfaitement... normal, enfin pas
sabre.
La proie de l'ivresse, mais quand il a, après avoir bu vraiment trop, il passe directement dans le délire complet. Et il n'y a pas de phase, ce qui fait que c'est un ivrogne exceptionnel, un ivrogne de bande dessinée par Hergé, qui avait, je crois, deux répulsions totales dans sa vie, qui était la musique, et la Cassafiore en a payé les frais, et qui était d'autre part, je crois, l'ivrognerie. Mais il a rendu le capitaine Haddock, qui est dans la première album, est complètement pété en permanence. Mais il l'a rendu bicéphale, quoi. Le capitaine A et le capitaine B, selon que... Mais on perd un peu les phases intermédiaires où réside tout la richesse vocabulaire de toutes les bizarreries. Il n'a pas le temps de déconner. Il c'est tout de suite le super déconnage. C'est pourquoi c'est un ivrogne également un petit peu extraordinaire, pas dans le sens de Malcolm du consul, mais parce que c'est un ivrogne dépeint par quelqu'un qui n'a pas de notion de l'ivrognerie et qui n'existe pas en quelque sorte. C'est un personnage de fiction. Mais c'est très sympathique, à Doc.
Mais ce serait quoi un ivrogne ordinaire? Vous dites au fond, le consul est un ivrogne extraordinaire, Capitaine Haddock aussi à sa façon. Qu'est-ce que c'est un ivrogne ordinaire?
Je sais pas, tous les autres, enfin, tout le monde. Sauf si ceux qui ne sont jamais ivrognes. Si jamais ivre, mais c'est la forme la plus répandue de l'ivronnerie. Et c'est l'image convenue de l'ivronnerie, c'est celui qui commence à avoir deux, justement, là où il n'y a qu'un. C'est pour ça que c'est un thème qui m'intéresse, parce que j'ai consacré, je ne sais pas combien de bouquins, à dire que la sagesse la plus rare était de percevoir la réalité, c'est de voir un, et l'erreur et l'illusion la plus ordinaire consistait à voir deux, alors qu'il y a un. C'est pour ça que le personnage du consul m'a été droit au cœur, si je puis dire. Et la deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, nous avons écouté quelque chose qui m'a paru très intéressant à la radio, là.
L'adaptation radiophonique épisodes de Tintin.
D'un épisode de 1962. Nous divergeons un peu. Vous tenez pour, je crois, le Carbopasso. Et moi, je tiens pour les Tintins et les Picaros.
Eh bien, les auditeurs trancheront. Effectivement, les informations que nous avons dit que c'est un épisode des Crabes aux pinces d'or, et vous dites que c'est les Picaros. On verra.
C'est pas très sérieux, notre mission. Bon, alors, vous avez certainement été frappé comme moi. C'est pas le capitaine Haddock qu'on a entendu. Hein?
C'est l'interprétation que vous contestez?
Et c'est même pas une interprétation, c'est un personnage imaginaire, qui n'existe pas, enfin, et tout ça parce que la vraisemblance auditive ne peut pas coller à la vraisemblance muette du dessin animé ou du dessin de bande dessinée. Et c'est pourquoi les adaptations au cinéma, ou que ce soit en animation, ou que ce soit un film, et que ce soit de Marcel Proust, ou que ce soit de Hergé, sont toujours voués un peu à l'échec, en ceci que il faut faire parler des personnages, et il faut donner un physique à des personnages, dont personne ne saura jamais, ne pourra jamais imaginer son physique et sa voix. C'est un mystère impénétrable. Je vais vous donner justement un exemple à ce sujet. Je lisais dans un ouvrage que les réactions d'un jeune garçon sortant d'une séance de cinéma où on passait un film inspiré de Tintin et où le capitaine Haddock était présent, évidemment. Et il disait, ouais, c'est pas mal. Le capitaine, dans le film, le capitaine n'a pas du tout la même voix que dans les albums. C'est joli, ça. Qu'est-ce qu'il peut dire? Peut-on dire une chose plus absurde? Et pourtant, ça correspond à quelque chose. Ça correspond à ceci que nous imaginons ou croyons imaginer un timbre. Mais qu'en fait, nous savons pas du tout quel est ce timbre. C'est la même raison pour laquelle des films sur Proust, quand il y en a eu deux ou trois, il y en a un, à mon avis, celui du Portugais, là,
était... Raoul Ruiz. Raoul Ruiz.
Oui, à mon avis, il était pas mal du tout. Mais, et bien meilleur, en tout cas, que celui d'autre, là.
De Nina Compagnès.
On est toujours un peu gêné de voir Monsieur Charlus sous les traits de Alain Delon et la même chose pour les autres personnages. C'est parce que ces personnages suggérés dans un roman, enfin un livre qui est en partie un roman, imaginé et rêvé, a une grande présence pour nous, mais pas du tout des traits précis, des timbres précis. De sorte que aucun acteur ne fera jamais l'affaire. Ça ne sera jamais Odette de Crécy, ça ne sera jamais Madame Verdurin. Et j'ai dit dans un bouquin récent que si, au coin d'une rue, on rencontrait, nez à nez, Madame Verdurin, la vraie, celle que nous avons une vision absolument floue et irréelle, en somme, ça serait comme si on voyait un martien ou un habitant de la Lune. Ça ne peut pas exister.
On en revient à la question de la singularité. Chaque existence étant singulière,
oui,
on ne peut pas l'interpréter,
oui,
la recopier.
Attention, il y a des existences singulières, ce sont toutes les existences. Mais il y a aussi des existences singulières qui n'existent pas et qu'on croit entendre, qu'on croit imaginer, alors qu'on imagine de rien du tout, en fait. Et comme on ne peut pas représenter le rien à l'écran, c'est une chose que Jean Paulhan a assez bien écrite et pressenti dans un livre qui s'appelle Le journal du fait des faits divers, un titre comme ça. Et il entre bien, alors, il entre bien, c'est également beaucoup, parce que c'est l'exemple même d'une perception qu'on croit avoir. Non, c'est pas du tout comme ça que je la vois, Madame Verdurin. Mais je ne vois rien, n'est-ce pas? Et c'est justement ça, le lieu de l'illusion, de prendre une irréalité pour une réalité.
Et c'est ce que fait l'ivresse.
C'est ce
bien
que
souvent.
Et ce que fait aussi Sophocle dans Œdipe Roi.
Dans Œdipe Roi.
Oui. Ah oui.
Œdipe à qui on a prédit qu'il allait tuer son père et épouser sa mère, qu'il n'en fera rien et qui accomplit.
Et s'il l'engendrait.
Qui accomplit cette prédiction.
Oui. On s'imagine que Œdipe a été trompé d'abord par sa femme, Jocaste, bientôt mère d'Œdipe, parce que quand une femme, ce que femme veut, Dieu le veut, et c'est à la faveur d'un sommeil, d'un instant d'inattention d'Œdipe, il aurait dû faire le diable, de toute façon, à partir de cette prédiction, et que Œdipe, tout en dormant, est victime de demi-sommeil pour enfreindre l'ordonnance, plus que la prédiction, l'ordonnance de l'oracle, qui était très au courant du fait que Laios, le père d'Œdipe, il l'a tué, était coupable d'un crime, c'est d'avoir violenté et abusé d'un enfant de 12 ans qui était le fils d'un roi, et qui, je crois que c'était Pélops, du Canaille, non pas le Péloponnèse, et qui avait scandalisé tout l'Olympe, et c'est ça qui tu as déshonoré la famille d'un grand roi, nous te condamnons à ne pas enfanter. C'est pas une prédiction, mais ce que nous prédisons, c'est que si tu enfantes, alors là, ça va barder.
Showed up with his mother, and a piano has Pouncer is a sumo wrestler. Cream Puff Casper Milk Toast. And the owner is a mental midget with a IQ of a fence post. 'Cause the piano has been drinking.
Je vous ai promis une surprise, Clément Rosset, et je vais la préparer pendant que vous répondez à cette question, puisque finalement, on n'y a pas encore répondu. Quelle est la définition de l'ivresse ?
Bien savant qu'il la saurait. Je constate que lorsque une personne, selon ses capacités et ses habitudes, elle peut être très sobre, et elle peut être pas sobre du tout, mais fait ce qui est pour elle un abus d'alcool, car c'est l'alcool qui rend ivre. Eh bien, ça va provoquer une réaction du corps qui passe un peu par le foie. D'ailleurs, on en meurt par le foie, hein, la cirrhose du foie. C'est comme ça qu'est mort Beethoven.
Que vous n'aimez guère, d'ailleurs. Lorsque vous parlez de musique, enfin, vous en parlez beaucoup dans votre travail. Et très souvent, pour justement bien marquer votre différence et montrer que votre goût ne va pas d'abord à Beethoven parmi tous les compositeurs
citez.
Trop de morale, dites-vous, chez Beethoven.
Oui, mais enfin, je disais ça dans un livre que j'ai écrit à 19, 20 ans, hein. Je dirais dire la même chose, mais je dirais mieux. Non, mais c'est certain que, là, la musique, c'est un immense chapitre, sur lequel j'ai beaucoup écrit aussi, et c'est une de mes passions, justement, la musique. Et il est certain que, la musique, selon Beethoven, est le contraire de ce que j'attends de la musique. Moi.
Alors vous allez nous dire pourquoi. On va écouter le quatuor à cordes numéro 13 de Beethoven. Vous écrivez quand même à propos de Beethoven, hein, vous dites mais ce n'est pas tant que la musique soit capable d'exprimer n'importe quelle idée morale, à moins que ce contenu ne lui soit apporté par un texte comme dans l'ode de la 9e, mais qu'elle est morale en son fond. Et là vous citez, c'est le texte en fait que le cinéaste Eric Rohmer lui a consacré. Hein. Eric Rohmer a écrit de Mozart en Beethoven, et c'est sur la notion de profondeur en musique. Et dans les textes qui s'intitulent « Cinq petites pièces morales », vous prenez vos distances avec ce propos-là.
Et pourtant, tellement non plus Rohmer. Tout en reconnaissant qu'il fait un cinéma ciselé, parfait. Il n'y a pas une note, une virgule à changer. Mais c'est pas...
Vous dites « Cette mise hors de soi de la morale a été exaltée par le cinéaste Eric Rohmer dans un ouvrage de musicologie qui regorge, à propos de Beethoven, de formules aussi dithyrambiques que musicalement contestables et intellectuellement inquiétantes. Mais il est vrai que tous les livres traitant de Beethoven en arrivent à peu près aux mêmes formules. » Ça vous validez ?
Non, ça c'est vrai. Il n'y a pas de livre sur le musicien. Il y a des livres sur l'homme, sur l'héroïsme moral, sur...
Mais alors peut-on parler d'ivresse au sens métaphorique du terme, d'ivresse musicale en écoutant alors
non,
pour
je
certains
vous ai dit,
Beethoven
je vous ai
pour
dit
d'autres
qu'il était mort du foie et de la cirrhose du foie. Je l'en plains beaucoup, ça doit être épouvantable. C'est pour vous dire que l'ivresse est la conséquence d'un malaise physique qui se traduit également psychologiquement, mais physiquement, il intéresse beaucoup de parties du corps. Et il y a le foie, bien entendu, mais il y a aussi les circuits cérébraux et le cerveau qui se met à faire la surchauffe. Quoi. Mais alors comment ça se passe? Nous connaissons rien à peu près rien du fonctionnement cérébral. Je suis obligé de vous répondre, je ne peux pas donner.
Mais c'est pas une métaphore pour vous, l'ivresse. L'ivresse est un phénomène physiologique.
Non, mais on peut aussi prendre l'ivresse dans d'autres sens. Hein. Vous voyez, les dictionnaires du français, l'ivresse des sens, l'ivresse, l'état d'ivresse de l'amoureux, Descartes dit de folie. mais bon, il y a mille sens de l'ivresse. Là, on s'est limité un peu à l'ivresse. L'ivresse qui se manifeste par des troubles intellectuels et somatiques caractéristiques, qui sont toujours un peu les mêmes. quel que soit l'ivrognerie.
Alors voici de quoi adoucir peut-être cette écoute de Beethoven qui ne vous tient
pas. Mais c'est ça le 13e.
Mais vous êtes en train d'écouter le 13e quatuor.
Mais j'entends rien. Il a un titre, un surtitre.
C'est le 13e quatuor de Beethoven.
C'est pas les. C'est, pas le. Les harpes.
Quatuor à cordes numéro 13. Auquel on va rajouter une note.
De toute façon, je vous dirais que. Il y a des œuvres de Beethoven que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est des œuvres qu'on joue rarement et que les fanatiques de Beethoven, hein, c'est-à-dire la moitié des gens qui aiment la musique, au moins, ne raffolent pas. Il y a jamais une nouvelle sonate de piano. Alors, en dehors du clair de lune, dont j'aime le premier mouvement, quand il est bien joué, il y a deux sonates qu'on ne joue jamais. Ce sont la 17e et la 17e et 23e.
Alors tenez, regardez, voici ce que je vous avais promis. Voici un verre qui comporte une substance à consommer avec modération. Essayez de me dire ce que c'est. C'est le blind test de Noël.
Assassinat, c'est un Agatha Christie. Assassinat, ah, vous n'avez pas Beethoven, vous allez voir. C'est pour ça. Alors pour déterminer quels sont les composants, Il y a plusieurs choses. Hein. Ah. Mais on s'y fait, hein.
Vous connaissez très bien ce vin, Clément Rosset.
Ben oui, je crois, oui.
Si je vous dis Château Chalon. Si je vous dis Château Chalon.
Vous me le dites trop tôt, mais j'ai oublié la cheminée. J'hésitais entre quelque chose de Turpépé, les vins du Jura, notamment le vin jaune, et aussi certains vins de Hongrie.
Je sais pas, okay,
qui étaient réservés aux nobles. On décapitait les manants s'ils en buvaient. Et ces trois vins ont une assonance. D'ailleurs, on dit que les plans du Château Chalon datent de l'occupation par les Espagnols de la région de Besançon, vieille ville espagnole, n'est-ce pas, comme dit Victor Hugo. Et alors, dans Besançon, vieille ville espagnole. Et qu'il y aurait, un peu de palomino, c'est-à-dire le cépage essentiel du Relès.
Mais vous êtes en train de boire du vin jaune, hein, Clément Rosset. C'est du vin jaune grand cru. Du Château Chalon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un vin que vous dites aime énormément. Et à la première gorgée, vous avez dit que c'était épouvantable.
Mais oui, parce qu'il y avait un mélange qui faisait que j'étais égaré. Parce que j'ai beaucoup, pas très souvent, parce que c'est un vin très rare et cher, bu du Château Chalon, un peu plus souvent du vin jaune de première qualité du Jura. C'est un des meilleurs vignobles de France, hein, le vin du Jura. Mais il est un peu atypique.
Puisque nous parlons de l'ivresse...
C'est vrai que c'est le vin que je préfère. Vous voyez, je suis tout à fait adouci.
Tout à fait, parce que nous sommes en train d'écouter Beethoven, alors je vois que vous reprenez vos esprits et que le goût reprend le dessus. J'ai une question à vous poser, puisque nous parlons de l'ivresse et que vous écrivez beaucoup dessus. Dans votre livre intitulé « L'objet singulier », vous proposez un terme qui viendrait peut-être se substituer à celui de joie chez Spinoza, d'ivresse dionysiaque chez Nietzsche, de félicité chez Leibniz, et vous parlez d'allégresse.
Et Laetitia chez Lucrèce.
Et Laetitia chez Lucrèce. Et vous proposez le terme d'allégresse. En quoi est-ce que l'allégresse se distingue de l'ivresse ? Ou est-ce que l'ivresse est une forme d'allégresse, disons?
Oui, ça, on peut dire ça. Oui. On peut dire ça. Mais qui ne met pas en danger le foie. Mais puisque vous me parlez de l'ivresse dionysiaque, et c'est encore un des nombreux sens, et peut-être l'essentiel de l'ivresse, et du fait que l'ivresse est bonne, pas au sens où dans son livre, qui, je dois vous dire, est tout de même bien pire que les films. Les films, on ne peut pas ne pas admirer la maîtrise technique, la singularité de la marque. Le Romer. Mais ça, c'est un tissu.
Ah, vous parlez de Romer?
Oui. Mais le livre est un tissu d'ineptie, hein. Alors là, je ne fais pas de nuance, hein. Bon. Mais,
vous vouliez parler de l'ivresse dionysiaque.
Voilà. Je voulais vous en parler, justement. J'avais prévu. C'est la troisième chose que j'avais marqué. Et à laquelle j'avais songé dans le taxi, qui m'a fait la joie de venir vers vous. Eh bien, il y a l'ivresse au sens nietzschéen. Il va au sens du chien. Ben, imaginons que c'est le paradis qui existe. On n'est pas vraiment sûr que le paradis, au sens catholique du terme, existe. Mais il y a un paradis sur Terre qui, lui, existe. C'est le sujet du premier livre de cet écrivain américain que j'aime beaucoup. C'est le seul, d'ailleurs, avec Edgar Poe. Comment s'appelle cet écrivain américain? Scott Fitzgerald. J'ai une grande faiblesse pour Scott Fitzgerald. Eh bien, mais je suis toujours en digression. Je peux pas prendre un chemin sans bifurquer.
C'est le sujet. Vous êtes sur l'émission des chemins, de toute façon. Allez-y, on arrive bientôt au terme de l'émission.
Pour moi, la musique, c'est le sentiment que j'ai l'impression, quand j'écoute Mozart, essentiellement Mozart, que ben, c'est pas la peine d'espérer le paradis, j'y suis, ça peut pas être mieux. Je vois pas qu'un paradis puisse être mieux que d'entendre la musique de Mozart, et de beaucoup d'autres. Mais ça vous explique un peu pourquoi je suis, comme Stravinsky, complètement rétif à la musique romantique. C'est la musique de Brahms, dans un studio de votre maison. J'avais même demandé à France Musique, suggéré que la direction de France Musique organise, comme on a réalisé, des jours sans voiture, un numéro pair, ou sans fumée, qu'on organise certaines journées sans Brahms.
On transmettra le message à la direction actuelle de France Musique. Marc Boinchet se fera un plaisir de vous écouter, Clément Rosset.
Certainement, on puisse allumer la radio sans trembler de devoir la refermer aussitôt. Bon.
Allez-y, bref. Sur l'ivresse dionysiaque, vous voulez nous dire
alors,
quelque chose?
J'y viens et j'y resterai, et je vous laisserai. L'ivresse dionysiaque est une ivresse dont Nietzsche avait beaucoup parlé, et certains des meilleurs passages d'un livre qui est loin d'être le meilleur de Nietzsche, c'est-à-dire Zarathustra, le disent de manière très éloquente, en particulier le tout dernier chapitre qui précède les deux beaux épilogues. Dans ce chapitre-là, il donne la parole à un homme qui se promène le soir, un peu du côté de... Comment s'appelait son village, là?
Oh, en Engadine?
Ah, oui.
Stils Maria?
Voilà, merci. Qui se promène la nuit et qui se met à... qui a l'ivresse, bien que n'ait pas de soleil, l'ivresse dionysiaque, et il se sent vraiment devenir surhomme. Surhomme signifiant chez Nietzsche, fâcheuse expression à l'époque où il l'a employé. Mm-hmm. Mais comme Deleuze a, pour une fois, bien montré, le surhomme, c'est pas du tout ce qu'on pense généralement sur le nom de surhomme. Non, le surhomme, c'est celui qui dépasse dans le bien la condition humaine, mais pas du tout pour prendre le pouvoir ou organiser une fusillade de tous les ouvriers du monde. J'avais un collègue à Nice, très gentil d'ailleurs, très marxiste, mais qui me disait Nietzsche, comment tu peux aimer Nietzsche? Mais son programme, c'est tout de même l'élimination des ouvriers. Bon. Ah bon?
C'est la récupération de Nietzsche par la postérité.
Et alors, il a un moment... Ah, mais je sentais le secret des choses, je sentais le secret...
Dans Zarathustra.
Dans le dernier chapitre de Zarathustra. Et je me suis enchanté, je savais tout, C'est un peu la passion que j'ai quand j'écoute la musique. Certaines musiques. Parce que moi, je sais la vérité sur toute chose. Enfin bon. Mais il a ce mot admirable et qui résume un peu toute la philosophie de Nietzsche. Ah oui, ceci est plus important que cela, oui, c'est... Et, alors, c'est un peu comme des versets bibliques, ou claudéliens, tout ça. Et alors, il y a un verset qui dit, et je sais maintenant, et j'ai enfin compris, que la joie est plus profonde que la tristesse. C'est ma devise, en fait. C'est le... Si je devais avoir un credo philosophique, ça serait celui-là. Bon. Et c'est là où je voulais en venir. Savez-vous quel est le titre de ce dernier chapitre de Zarathustra ? Le chant de l'ivresse. Et je vous tiens d'ailleurs, on va en parler, parce que c'est ce texte qui a été pris par Gustav Mahler dans le passage à la troisième symphonie, qui est une musique admirable d'ailleurs, sur fond du texte de Nietzsche de la fin de Zarathustra.
Remarquons enfin que l'allégresse, telle celle de l'ivrogne, de l'amoureux, de l'artiste, du philosophe, implique une voyance. Pas seulement un amour, mais aussi un sentiment du réel. Dans l'allégresse, le réel se présente tel qu'en lui-même, idiot, sans couleur de signification, sans effet de lointain. Présence du réel, qu'aucun regard, sinon allègre, n'est capable d'approcher de si
vous
près.
Vous lisez qui, là?
Je vous lis vous, Clément Rosset.
J'ai écrit des choses aussi, aussi gentilles.
En sorte que l'allégresse n'est pas seulement un mode de réconciliation avec la mort et l'insignifiance, elle est aussi un moyen de connaissance, une voie sûre d'accès au réel. Je vous ai imposé du Beethoven, c'est avec Mozart que l'on se quitte. Clément Rosset, le concerto pour deux pianos de Mozart, et j'ai lu un extrait de l'objet singulier de votre plume.
Il
n'y
en a pas deux ?
Deux pianos, tout à fait.
Non mais je crois qu'il y a deux concertos pour deux pianos.
C'est le premier. Voilà. Merci à vous Clément Rosset d'être venu nous parler d'ivresse aujourd'hui. Nous terminons l'émission avec Mozart et du vin jaune, on n'est pas loin du paradis.
Ah bah oui, là on y est en plein, on y est immergé.
Thank you.
sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
De quelle actualité allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bien, ça fait déjà quelques semaines que je pose ce genre de questions. Qu'est-ce que lire ? Qu'est-ce qu'écrire ? Qu'est-ce que composer ? Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en remettre une couche avec une question encore plus vaste, encore plus massive, incontournable. Qu'est-ce que créer ? Pour la poser, heureusement, je suis aidée, et pas par un, mais par plusieurs auteurs. Baudelaire, Barthes, Simmel, Freud ou encore Marx, tous sont rassemblés en une anthologie tout juste parue autour d'un champ particulier, la mode.
Si vous le voulez bien, pour commencer cet entretien, je prendrai le point de vue le plus simple et je crois le plus général, celui du monsieur dont je suis, qui s'étonne quelquefois de voir sa femme adopter d'enthousiasme telle ou telle position de la taille, telle ou telle longueur de jupe, et qui répond à toutes les questions « c'est ainsi, ça se fait, c'est la mode ». Alors, naïvement, le monsieur s'étonne et se dit « pourquoi est-ce que c'est la mode ?»
Comment se crée la mode ? Déjà, on se posait la question en 1949 dans l'émission La Tribune de Paris. Mais en fait, on se posait la question même bien avant, à lire ses textes. On se rend compte par exemple que Baudelaire, dans Le peintre de la vie moderne, paru au cours de l'année 1863, décelait déjà, à travers toute une série de planches de mode, la variation essentielle de la mode, son essence profondément instable, fluctuante, nouvelle. On se rend compte aussi avec Théophile Gautier qu'en 1858, dans un court texte de la mode, qu'il voyait dans les costumes modernes la beauté propre à la mode. Vêtements, habits, costumes, tous ces termes pour dire la mode révèlent bien que la mode en tant que telle, en tant que concept, soulève déjà par elle-même de nombreux problèmes. Alors pourquoi l'associer à celui de la création ? Pourquoi se demander qu'est-ce que créer avec elle ? Eh bien, c'est parce qu'avec elle, avec la mode, que tout le monde peut observer partout, que tout le monde peut pratiquer, porter, expérimenter, éprouver, se pose de manière concrète la question de la création. Comment la mode se crée-t-elle ? S'invente-t-elle ou s'établit-elle ? Advient-elle de nulle part ou de quelques personnes ou d'un seul esprit ? S'impose-t-elle à tous avec sa logique ou est-elle le fruit d'une décision concertée ? Est-elle pure nouveauté ou reprise de l'époque, de ses mœurs, de ses goûts ?
J'ai appris la chose la plus importante dans l'élégance, le sens du dépouillement. J'ai appris que l'on ne fait jamais une robe en ajoutant quelque chose, mais toujours en retranchant quelque chose. Car jour après jour, dans le studio du couturier, la robe revient vers son créateur. Il faut toujours que celui-ci enlève quelque chose, simplifie et travaille non pas dans l'ornement, mais seulement dans la masse, dans l'architecture de sa robe.
Se demander qu'est-ce que créer grâce à la mode, on pourrait dire que c'est comme faire une robe, selon Pierre Balmain. Comme le rappelle le couturier, c'était dans une conférence donnée en 1954, ce n'est pas en rajouter, faire une robe, ce n'est pas l'orner, ce n'est pas rajouter par exemple la question de la mode à celle de la création, c'est en fait revenir à la question simple de ce qu'elle est. C'est donc au contraire la dépouiller. Qu'est-ce que créer ? La question, elle aussi, ne cesse de revenir dans la tête des philosophes et des artistes, comme donc la robe en studio pour être retouchée, pour être dépliée. Et les philosophes, eux, y répondent par tout un ensemble de choses. La définition de la création, les formes de la création, la fonction sociale de la création, encore sa place dans la culture. La création se déplie ainsi en diverses dimensions qui elles-mêmes n'admettent jamais une seule réponse. Tout comme la mode, tout à la fois expression d'une époque pour Roland Barthes, ou tromperie selon Pascal, instrument de résistance ou fétiche marchand pour Marx, de quoi donc en rajouter, de quoi orner à foison. Revenir alors à la simple question de la création, c'est revenir au squelette de ce qu'elle est, c'est couper dans la masse ce qui pose question en elle, ce qui fait problème, et là est l'essence de la création que seule la coupe d'une robe semble expliciter aussi simplement. À gauche, à droite, c'est la mode, chante David Bowie. Et ce qu'elle nous indique ainsi, ce qu'elle nous explicite aussi simplement, c'est que la création, c'est au fond une question, une seule question, un paradoxe en bonne et due forme. Un coup à gauche, un coup à droite, elle ne vient pas de rien, mais elle n'est de personne. Elle est en fait de tout, mais semble advenir de nulle part. Elle est dans l'air du temps, mais surprend tout le monde. Et pire, ne plaît à personne, comme une robe, donc.
Victime de la mode, tel est votre nom de code, Géraldine.
Ah, on aurait pu passer aussi cette chanson.
Alors, l'anthologie de textes dont vous nous parliez au début.
Donc, c'est les grands textes de la mode. C'est commenté par Émilie Amen et Benjamin Simenauer. Et c'est paru aux éditions Regard. Et aussi, c'est coédité aussi avec l'Institut français de la mode. Et on peut s'y trouver dans cette double collection les grands textes du luxe commentés par Olivier Assoul.
C'est noté, Géraldine. Merci à vous. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Cette semaine, nous vous offrons quelques minutes de poésie avec Arthur Rimbaud, des textes lus par Jacques Gamblin. Aujourd'hui, génie.
Il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments. Lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations. Il est l'affection et l'avenir. La force et l'amour que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité, machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre, ô jouissance de notre santé. Élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie. Et nous nous le rappelons, et il voyage. Et si l'adoration s'en va, sonne sa promesse, sonne arrière ses superstitions, ses anciens corps, ses ménages et ses âges, c'est cette époque-ci qui a sombré. Il ne s'en ira pas. Il ne redescendra pas d'un ciel. Il n'accomplira pas la rédemption des colères des femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché, car c'est fait, lui étant et étant aimé. Oh, ses souffles, ses têtes, ses courses. La terrible célérité de la perfection des formes et de l'action. Oh, fécondité de l'esprit et immensité de l'univers. Son corps, le dégagement rêvé, le brisement de la grâce croisée de violences nouvelles. Sa vue, tous les agenouillages anciens et les peines relevées à sa suite. Son jour, l'abolition de toute souffrance sonore et mouvante dans la musique plus intense. Son pas, l'émigration plus énorme que les anciennes invasions. Ô lui et nous, l'orgueil plus bienveillant que les charités perdues. Ô monde, et le chant clair des malheurs nouveaux. Il nous a connus tous et nous a tous aimés. Sachons, cette nuit d'hiver, de cap en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, de regards en regards, forces et sentiments là, le héler et le voir, et le renvoyer, et sous les marais, et haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour.
C'était Génie, d'Arthur Rimbaud, un poème lu par Jacques Gamblin. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui a préparé cette émission, ainsi que toutes les autres, Marianne Chassor, David Pargamin, Isis Jourda, Maude Markiewicz, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger et Olivier Bétard à la réalisation. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine autour de mai 68. Les sources intellectuelles de mai 68 et les enjeux philosophiques de cette période, ce seront les philosophes Frédéric Worms, Patrice Maniglier, mais aussi Jean-Christophe Bailly qui viendront réfléchir avec nous sur mai 68. D'ici là, pour réécouter l'émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, ainsi que toutes celles des jours précédents et des semaines et des mois, voire des années précédentes. Vous pouvez aussi télécharger, podcaster ces émissions afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. Restez à l'écoute sur France Culture.